Bonjour, coucou, on est là, sortie du labyrinthe.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
Irène Némirovski, 1903-1942.
Je crois qu'elle a vraiment été la Sagan de son époque. Il y a eu le même mouvement de stupeur totale. Cette jeune femme brillante qui ne vivait que pour la vie de famille, qui n'aimait pas beaucoup le tout Paris, n'aimait pas beaucoup tout ça, s'est trouvée en effet propulsée coqueluche du tout Paris.
Elisabeth Gilles, la fille cadette d'Irène Némirovski. C'est rare un auteur qui passe deux fois de l'anonymat à la notoriété. Dans les années 1930, rescapée de la révolution bolchevique, installée à Paris, elle avait par ses livres incarné le romanesque russe. Après sa mort à Auschwitz en 1942, l'oubli avait peu à peu recouvert son nom. Et il y a 10 ans, la parution d'un livre rescapé, inattendu, suite française, déclenche une vague de fond internationale. Le film anglo-saxon qui sort maintenant sur nos écrans en est issu. Aux États-Unis, la question de son rapport avec sa judéité a été particulièrement discutée. En France, ce sujet est abordé aussi, mais l'écho du livre se fait entendre au plus profond dans tous les secteurs de l'opinion. On s'émeut d'abord des conditions dans lesquelles a été conservée suite française, dans une belle valise confiée à ses filles, mais qu'elles auraient pu abandonner tant elle était lourde à porter. Ce chef-d'œuvre inachevé décrit aussi très précisément une bourgade rurale sous l'occupation et fait ressurgir les questions qui nous taraudent. Si nous n'avions pas su, comme aujourd'hui, ce qui allait advenir, qu'aurions-nous fait ? Némirovski savait que son dernier texte serait posthume, c'est aux générations suivantes qu'il était destiné. « Mon Dieu, nous demande-t-elle, qu'a fait ce pays qui avait épousé la liberté et n'en a plus vu les charmes ? Et que m'a fait ce pays qui était tellement le mien ?» et que je ne songeais même pas à fuir.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Olivier Philipponat, bonjour.
Bonjour.
Alors, le sort des livres de Némirovski, ça ressemble à un destin qui est plus fort que la destinée de ceux qui les portent. On a entendu une de ses deux filles tout à l'heure. Leur vie a été conduite par le sort de leur mère, sans même qu'elle devine le succès qu'elle pourrait connaître à la fin. Et c'est un peu ce qui vous est arrivé aussi à vous, quand vous avez entrepris avec Patrick Lienhardt une biographie de Némirovski. C'était avant même que la parution de suite française ne se dessine.
Oui, c'est un projet que Patrick et moi avons, auquel nous avons songé quelques semaines avant l'apparition de suite française. Nous ignorions qu'Irène Némirovski avait toujours une fille de ce monde, Denise Epstein. Nous ignorions que suite française allait sortir. Notre éditeur était moyennement ravi de ce projet, parce qu'Irène Némirovski, vous l'avez rappelé, était tout de même passablement oubliée. Et puis la publication de ce roman en octobre 2004, le prix Renaudot à titre posthume, l'unique fois où ça s'est produit, a fait de ce livre et de la biographie que nous projetions un enjeu formidable.
Et maintenant, vos deux vies, Irène Némirovski et vous, Olivier Philipponat, sont associées.
Ah oui, c'est Irène Némirovski, j'ai écrit d'autres biographies avant, c'est un auteur qu'on ne peut pas abandonner. Elle a été abandonnée suffisamment, vous l'avez dit, arrêtée et déportée à Auschwitz. C'est un auteur qu'on ne peut plus abandonner une fois qu'on a commencé à s'y intéresser.
Avoir la France, une vie antérieure, sous le signe de la France.
Oui, Irène Némirovski, pour moi, est un auteur russe, mais d'expression française. Elle est née à Kiev, vous l'avez dit, en 1903, dans l'Empire russe, en Ukraine. Mais dès cette époque, elle passe pratiquement la moitié de sa vie, comme toutes les filles de la bourgeoisie russe, en France, sur la Côte d'Azur. Elle est asthmatique. Elle prend aussi les eaux à Vichy, d'où elle envoie une petite carte postale à des parents. C'est le premier écrit d'elle qu'on connaisse, elle est toute petite encore. Et elle dira qu'elle rêvait en français avant même de savoir écrire le russe. Et ce qui est très frappant, c'est que lors de son arrivée en France en 1919, elle va s'inscrire à la Sorbonne et c'est là qu'elle va apprendre véritablement la littérature russe qu'elle connaissait mal.
La famille a fui, en effet, la Révolution. C'était une famille riche dont le père Léonide d'abord avait travaillé dans l'industrie, puis dans la banque. Il avait rassemblé ce qu'il pouvait de sa fortune et il a repris ses affaires ensuite à Paris. Léonide est marié avec Anna. Alors ça, c'est un nœud important dans la vie d'Irène, le rapport
très
difficile
important
avec sa mère, Anna.
très important. Léonide est un homme devenu riche. Il est né véritablement dans le shtetl, dans le ghetto en Russie. Et il s'est vraiment forgé à la force il a forgé son destin à la force du poignet, devenu, vous l'avez dit, un financier assez important. Et vous avez appelé son épouse Anna, mais c'est un prénom qu'elle a refusé toute sa vie de donner, préférant se faire appeler Jeanne ou Fanny à la française, puisqu'Anna, selon elle, rappelait son origine juive russe. Quelque chose qu'elle a toujours voulu masquer. Et le conflit a été très durable entre Irène Némirovski et sa mère Anna.
Une mère frivole qui prend des amants, qui profite de l'argent de son époux. C'est le décor du premier livre qui va connaître un succès fulgurant. À la Sagan, disait tout à l'heure Elisabeth Gilles, David Golder, 1930, un livre qui va faire l'objet tout de suite d'une adaptation filmée, le premier film parlant de Julien Duvivier. David Golder, le riche financier mais qui est tombé malade, s'est excusé du peu à ribord, et il est flanqué d'une femme avide et sans cœur.
Je ne t'embrasse pas, ma figure est faite.
Elle lui tendit sa main, petite et belle, chargée de diamants énormes. Puis elle lissa avec précaution ses courts cheveux roux. Elle avait des joues lourdes, comme soufflées intérieurement, touchées par la coupe rose, et de splendides yeux bleus, durs et clairs.
As-tu mis tes affaires en ordre? Mais je suis ta femme, j'ai bien le droit de savoir. Alors qu'est-ce que j'aurais, moi, si tu venais à disparaître? Et pour un sou?
Oh, assieds-toi.
Et ça, c'est rien, ça. Ça vaut 1 000 000, ça, ma fille. Et ces diamants, ces bijoux, ça, hein? Tu oses prétendre que je ne t'ai pas assuré une fortune, hein?
Brut, sale brut, tu es resté le même, tu n'as pas changé. Le petit juif qui vendait des chiffons et de la ferraille à New York avec son sac sur le dos.
Regarde-toi, tu crèves de l'argent que tu m'as volé, hein, ça. Regarde-toi, tu oses protester, hein. Et rappelle-toi le ghetto de Ketchniev, hein. Tu courais dans la neige avec tes chaussures trouées. Maintenant, tu es Gloria avec tes bijoux, tes robes, tes autos que j'ai payés, moi, avec ma santé, avec ma peau.
À la mort de David, enfin pardon, Léonide, Anna, pardon, Fanny ira s'installer, c'est un lieu d'histoire, la maison de la radio, ira s'installer à côté d'ici.
Oui, j'ai visité cet appartement.
Quai de Passy, enfin ça s'appelait pas le Quai Kennedy à l'époque.
Tout à fait, oui, oui.
Et quand les petites filles, après la mort d'Irène, et après-guerre, frappons à la porte de d'Anna, de Fanny.
Après-guerre, elles vont frapper effectivement, donc on est en 45, à la porte de leur grand-mère Fanny, qui refusera de leur ouvrir en disant, comme elle l'a toujours dit, je n'ai pas de fille qui porte ce nom.
Il y a des Sana pour les enfants pauvres, aurait-elle ajouté. 1930, revenons à Irène, qui va se marier avec Michel Epstein. En 1926-1930, c'est le premier succès, donc David Golder. Formidable, l'adaptation de Duvivier, finalement.
Ben, on soupçonne Irène Némirovski d'y avoir participé. Elle ne l'a jamais reconnue, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été projeté en même temps que la pièce de théâtre.
Ah oui, parce qu'il y a eu une également. Pièce, tout ça la même année.
Il y a eu un conflit d'intérêts entre le film et la pièce tirée du livre.
Beaucoup de livres vont suivre. Ah, vous dites quand même, peut-être trop de livres dans les années 30.
Mais peut-être trop. À partir de la mort de son père en 1932, Irène Némirovski devient, même si son mari travaille dans une banque, presque le soutien de famille. Elle vit quand même sur un assez grand pied. Il lui faut donc assurer, et elle va publier pratiquement un roman par an, et pas toujours des romans qu'elle souhaitait publier. Il y en a peut-être un ou deux dont elle était moins satisfaite, mais quand même, dans l'ensemble, ça reste d'une très haute qualité.
À la rêveuse bourgeoisie française, qui a fait un excellent accueil aux Russes blancs, beaucoup plus qu'à d'autres types d'immigrés, elle offre, expliquez-vous, comme emballé dans un paquet cadeau, un romanesque russe.
Oui, c'est juste, mais c'est quelque chose dont elle a cherché à s'échapper, justement. Quand on regarde tous les romans qu'elle écrit au cours des années 30, elle alterne les romans russes avec des thèmes russes, et souvent des thèmes judéo-russes, parce que c'est le milieu qu'elle connaît le mieux, avec des grands romans français très ambitieux pour elle, La Proie, par exemple, Les Biens de ce Monde, et romans qui seront systématiquement mal accueillis, ou moins bien accueillis que ces romans russes, ce dont elle se désespère, parce qu'elle rêve quand même, malgré tout, de devenir un grand auteur français reconnu, un Mauriac, un Duhamel, un Martin Dugard, pourquoi pas.
Oui. Vous parlez de Daniel Robbs, un critique à l'époque très connu, et elle dit « Je n'écris pas pour Monsieur Daniel Robbs, j'écris pour Monsieur Tout-le-Monde, qui est plus intelligent et plus malheureux que Monsieur Daniel Robbs ». C'est joli, cette définition de la critique.
Oui, et c'est très vrai. C'est une des raisons pour lesquelles, dans son roman « Suite française », on trouvera, par exemple, très très peu de dates, très très peu de noms des principaux protagonistes historiques de l'occupation, parce qu'elle pense déjà au public qui la lira, écrit-elle, en 1952 ou 2052.
Alors, y pense-t-elle dans les années 1930? Vous dites qu'à partir de 1931, elle s'intéresse beaucoup à l'histoire. Elle s'intéresse aussi beaucoup à la vie politique. On traverse un moment critique en France dans les années 30. Elle partage peu ou prou d'ailleurs le grand mouvement antiparlementaire de l'époque. Et on va la voir se passionner en 1934 pour le personnage de Stavisky. Ici, c'est l'adaptation d'Alain René.
Vous avez lu l'article de Joseph Kessel dans le matin d'aujourd'hui?
Non.
L'appel du sang. Quel titre mélodramatique. Et... savez-vous de quel sang il est question? Sang juif, tout simplement. Et pour protester contre les persécutions raciales en Allemagne, Lord Melchett, président du Trust des industries chimiques, vient d'abjurer la foi chrétienne et de se convertir au judaïsme de ses ancêtres. Et Kessel trouve que ce geste d'un homme riche et puissant, qui à cause de l'adversité renoue un lien dont il se sentait de toute autre part libéré, et d'une noblesse qui a frappé tout le monde. Eh bien, moi, ce n'est pas de la noblesse, c'est ce geste qui me frappe, mais sa sottise. Enfin, attirer l'attention sur ses origines quand on est juif, c'est la meilleure façon de provoquer l'animosité des autres.
Vous lisez jamais un journal de gauche, Baron?
Jamais, Sacha. Oh, c'est au-dessus de mes forces. C'est trop mal écrit.
Sacha, c'est Jean-Paul Belmondo. Si le temps ne lui avait pas été compté, si elle n'avait pas dû faire bouillir la marmite et maintenir le train de vie, elle aurait fait un grand cycle sur les Juifs.
Pas un grand cycle. D'abord, la première chose à dire, c'est que Stavisky, c'est un personnage dont elle s'est servie, mais pas sous ce nom-là. Dans un roman du milieu des années 30 qui s'appelle La Proie, elle met en scène la carrière d'un escroc politique. Et elle sera du reste très surprise de l'accueil critique qui est fait à ce roman, puisque personne ne paraît scandalisé par les faits qu'elle raconte dans ce roman. Et elle écrit dans son journal de travail « Que n'aurait-on dit si mon personnage avait été juif, si ça avait été véritablement Stavisky ?» Et effectivement, à la fin des années 30, elle avait un projet qui était de résoudre le mystère de ce grand livre qu'elle aurait appelé « Le Juif » et dans lequel elle se serait inspirée de personnages comme Blum, comme Trotsky, peut-être comme Stavisky, comme personnage, comme symbole, comme modèle de l'éternel révolté. Voilà, c'est ça qu'elle avait en tête. Et c'est ce qu'elle s'est aussi interdit d'écrire à la fin des années 30, vu le climat ambiant en France et l'accueil des livres de Céline, par exemple.
Quand son nom est revenu au jour, dans les années 2004 et suivantes, dans la communauté juive française, on s'est un peu étonné de certains de ses propos, davantage encore dans la communauté juive américaine. Vous expliquez, vous, Olivier Philippona, qu'elle a un regard sur les Juifs sans compassion. Ce sont des cobayes, des personnages.
Oui, sans compassion pour aucun de ces personnages, ce qui est... Deux petits faits très frappants. Les premiers textes qu'Irène Némirovski publie quand elle est toute jeune fille, ce sont des petits dialogues satiriques. Et ensuite, dans ses premiers romans, dans les brouillons, on voit qu'elle dessine toujours ce qu'elle appelle les masques de ses personnages. C'est-à-dire que pour Irène Némirovski est avant tout, il me semble, un écrivain satirique, un écrivain presque de caricature. Et il est évident que lorsqu'elle caricature des personnages juifs qui sont ceux qui ont entouré son enfance, la satire paraît cruelle, et d'autant plus aujourd'hui avec le recul que nous avons. Mais la dernière chose qu'il faut rappeler, c'est qu'Irène Némirovski n'est pas une idéologue, et il n'y a pas on ne connaît pas d'elle de déclaration politique, de déclaration publique qui aille dans un sens politique. Elle reste avant tout une romancière.
Mais jusqu'où savait-elle qu'elle partageait avec les Juifs la même communauté de destin? On entendait tout à l'heure, cité par Belmondo et le baron, son interlocuteur, un personnage de Joseph Kessel, un Juif qui redevenait Juif après avoir été chrétien. Elle demande le baptême juste avant la guerre.
Elle demande le baptême en 1938, elle l'obtient en 1939 avec son mari et avec ses deux petites filles. Chez elle, je pense que ça correspond aussi à un besoin spirituel. Le judaïsme, elle ne l'a jamais pratiqué. Alors que, adopter le catholicisme, c'est une forme d'adoption spirituelle. Il y a cet aspect-là chez elle, à un moment où elle se sent assez désemparée, où son mari est très malade aussi, où les finances ne sont pas bonnes. Et il y a aussi, certainement, sa fille vous l'aurait dit, l'idée qu'elle se protégera contre la menace antisémite qu'elle perçoit très très bien depuis 1933. Depuis l'accession d'Hitler au pouvoir, bien entendu.
Le baptême est plus facile à obtenir, notamment grâce à un extraordinaire prêtre qui s'appelait Monseigneur Jica,
oui.
Et l'abbé Béchard de Besse en Auvergne, que la nationalité française qui, inexplicablement, a été refusée et à Michel Epstein et à son épouse Irène Némirovski. Avant-guerre, il n'y a pas que David Golder qui ait donné lieu à une adaptation au cinéma, mais aussi à un autre texte moins important, Le Bal, avec la toute jeune Danielle Darrieux. Chouette, a-t-elle dit quand elle a été choisie. Je ne vais plus à l'école, je fais du cinéma. On lui a composé pour l'occasion deux chansons, dont celle-ci dédiée à une poupée.
C'est un refrain du temps passé qui chante en ma mémoire d'une fillette au cœur blessé.
De l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Mes souvenirs sont vraiment très très précis. Maman était petite, elle était menue, elle était très brune, les cheveux très très frisés, des grands yeux très doux. Elle était douce dans son comportement. C'était une femme très tendre. Tous les enfants, je pense, rêvent d'avoir une maman tendre.
On en vient maintenant avec Olivier Philipponat, biographe d'Irène Némirovski. Au dernier moment d'Irène Némirovski, Denise Epstein, sa fille aînée, qu'on vient d'entendre, s'est vue confier à la déportation de ses parents une valise extrêmement lourde qui contenait le dernier manuscrit, suite française, et on entendait une chanson consacrée aux poupées par Darrieux. Ben, valise, elle était très belle, mais on n'avait pas de place quand on était un enfant pour y mettre sa poupée. Et pourtant, la valise a été conservée. Alors tout ça, ça se passe, Olivier Philipponat, à Issy-l'Évêque, un village de Saône-et-Loire, aux confins de la Nièvre, où les parents de Denise et d'Elisabeth, où Irène et Michel, avaient déjà séjourné un peu avant-guerre, et où ils décident d'installer les enfants dès la déclaration de guerre de septembre 39.
Tout à fait. Irène Némirovski va rejoindre ses filles peu avant l'Exode. Elle n'a pas été sur les routes de l'Exode. Elle se trouve dans ce village, Issy-l'Évêque, qui d'ailleurs va passer plusieurs fois de zone nord en zone sud jusqu'à temps que la ligne soit fixée. Et c'est là qu'elle observe l'Exode dont elle va se servir pour son grand roman Suite française. Mais elle n'y est pas réfugiée. Elle est repliée comme des milliers de Français. Et il ne faut surtout pas croire qu'elle s'y cache comme juive apatride, puisque c'est la terminologie en vigueur à cette époque.
Ils sont à l'hôtel des voyageurs, qu'ils connaissent d'avant-guerre,
ouais.
Et ensuite dans une grande maison qu'ils louent.
Oui, sur la place du village, sur la grande place du village, maison où la police française va venir l'arrêter, elle seule, le 13 juillet 1942, devant son mari et ses deux filles.
Mais auparavant, les Allemands occupaient le village, occupaient l'hôtel des voyageurs, et Michel, qui avait été dirigeant de banque et qui n'avait plus de poste, servait d'interprète aux Allemands.
Il était dans le village la seule personne à savoir parler l'allemand à la perfection, ainsi que le russe aussi. Et donc il servait d'interprète, effectivement, entre les villageois et les Allemands. Et ce qui est très paradoxal dans cette histoire, c'est que Irène Némirovski, son mari Michel Epstein, ont vécu jusqu'en 1941 pratiquement sous la protection de l'armée allemande qui occupait le village. Mais en juin 1941, tous les Allemands sont envoyés sur le front russe. C'est l'administration française qui prend le relais dans le village. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Irène Némirovski comprend que la situation devient critique pour elle.
C'est l'administration française qui oblige au port de l'étoile jaune.
Tout à fait.
Et un mois et demi après, c'est l'arrestation d'Irène, puis l'arrestation suivra de Michel. L'un et l'autre mourront à Auschwitz. Quand l'échéance approche, voici les consignes qu'Irène donne au sujet des enfants à Julie Dumeau, qui sera leur tutrice. La lecture et les interventions qui vont suivre ont été enregistrées dans une émission de France Culture, après la parution de Suite française, émission préparée par Benoît Lagan, c'était en 2005.
Installez-vous avec les enfants, hôtel des voyageurs, chez Loctin, là où nous vivons depuis un an. C'est une modeste petite auberge, mais vous serez bien nourris et les patrons sont des gens de toute confiance. Nous leur laissons d'ailleurs une cassette contenant quelques petits bijoux. Cette cassette contiendra également 25 000 francs environ en billets de banque. Le 11 novembre, vous pourrez rentrer dans la maison que nous avons louée chez M. Marius Simon au prix de 4 500 francs par an. Cette maison n'est pas meublée, mais nous nous sommes arrangés avec M. Billon, menuisier, et avec Maître Vernet pour qu'il nous loue les meubles nécessaires.
Je suis très émue parce que c'est moi qui possède ces meubles que nous avions loués à M. et Mme. Et quand je les vois, je pense toujours à eux. Ma pensée ne les a jamais quittés. J'ai été contente de pouvoir lire dans le livre qui a été publié ce qu'ils étaient devenus, parce que mes parents se posaient toujours cette question. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et nous connaissions Julie. Est-ce que Julie a pu sauver les enfants?
Alors Julie Dumeau, la titrice, a pu cacher les enfants pendant la guerre. Ensuite, elle va s'envoler vers les États-Unis. Elle ne donnera plus jamais signe de vie. Et le livre qui est évoqué ici par la fille de Monsieur et Madame Billon, d'ici l'évêque, c'est Suite française, qui était donc dans cette fameuse valise, devenue une véritable légende maintenant, et confiée aux filles.
Oui, une légende qui faisait beaucoup rire Denise Epstein de son vivant, puisqu'elle elle trouvait que cette valise était très ordinaire. C'est bien sûr le contenu qui est important.
Je crois qu'elle était très belle, avec les initiales du grand-père.
Avec les initiales du grand-père, oui, c'est un objet qui, évidemment, aujourd'hui, nous paraît presque anachronique. À ce titre, il est assez beau, mais à ses yeux, c'est évidemment le manuscrit que cette valise renfermait, et tous les documents qui s'y trouvaient aussi, des photos, des lettres, ce genre de choses. Manuscrit qu'Irène Némirovski n'a donc pas pu terminer. Son livre devait comporter 5 parties. L'histoire devait s'achever en 1945 avec la victoire et avec la paix. Et deux parties seulement ont pu être achevées, une troisième esquissée. Et Denise Epstein va conserver cette valise toute sa vie, mais elle ne transcrira ce manuscrit que dans les années 80, je crois, pour se rendre compte que ce qui paraissait être un brouillon est en réalité un roman parfaitement achevé.
La première partie, c'est l'Exode. Extraordinaire, Maelstrom, le même choc que la révolution russe.
Exactement. Je pense du reste que le grand projet d'Irène Némirovski toute sa vie, ça a été d'écrire un grand roman russe sur la révolution. Elle a quitté Saint-Pétersbourg en 1917 à 14 ans. Elle avait des souvenirs très imprécis de ce qu'elle a vu là-bas, en direct, en mars et en octobre 17. Elle n'a jamais réussi à en tirer que quelques nouvelles très, 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 très vagues, très, très floues.
Mais
donc, Suite française, c'est son grand roman russe.
Elle vit les conséquences de l'exode quand la moitié de la France cherche l'autre moitié, comme quand la moitié de la Russie chercherait l'autre moitié. Puis après, c'est la description de la vie du village, deuxième partie, dans laquelle est enchâssé un épisode qui est comparable au silence de la mer et qui a été beaucoup exploité dans le film franco-anglo-américain Suite française qui vient de sortir sur les écrans, un film signé Saül Dib. Alors on est dans une maison bourgeoise, celle des Angeliers. Lucille, la jeune femme, elle trouve que l'officier a des belles mains. C'est très important les belles mains et les bouches chez Irène Némirovski, écrivez-vous, hein.
C'est vrai.
Et elle lui parle, mais la belle-mère, Madame Angelier, la mère du mari de Lucille qui est prisonnier, veille au grain.
Puis-je m'asseoir ici?
Le morceau que vous interprétez, je ne le reconnais pas.
C'est normal.
J'ai étudié la musique, vous savez.
Pas ce morceau-là.
C'est vous qui l'avez écrit?
Oui, j'étais compositeur avant la guerre. Quand je me suis marié.
Vous êtes marié?
Je suis marié depuis 4 ans. Et soldat depuis 4 ans.
Vous devez lui manquer, c'est sûr.
Non. Pas vraiment. Plus maintenant.
Cet Allemand est notre ennemi, vous comprenez, Lucille ? Vous auriez dû vous lever et partir, ma fille.
Mais madame, je ne peux pas passer toutes mes journées enfermée dans
ma chambre. J'attends de vous que vous soyez une épouse fidèle pour mon fils.
Je le suis.
Dans ce cas, comment pouvez-vous parler ou même respirer quand vous savez que votre mari a été pourchassé par ces animaux ?
Mais que s'est-il passé ?
Je viens d'apprendre que l'unité de Gaston est dans un camp de travail en Allemagne. Votre mari est prisonnier de guerre.
Solidité de la bourgeoisie provinciale dans ses principes qui a longtemps impressionné Irène Némirovski.
Oui, c'est vrai que pour elle, c'est un petit peu le summum de la France, c'est sa bourgeoisie, indestructible, qui se relève toujours toutes les épreuves. Elle a écrit plusieurs romans sur ce sujet. Elle va mettre effectivement très très longtemps à jeter enfin sur la bourgeoisie française, comme elle l'a fait sur toutes les autres classes sociales, un regard ironique. Et ce moment, c'est mars 42. Elle relie un roman qu'elle a écrit en 40, qui faisait l'éloge de la bourgeoisie française, des grandes familles. Et elle prend soin de dater en le relisant. Elle marque d'une encre de couleurs différentes mars 1942, haine et mépris. Et c'est le moment où tous les journaux qui continuaient à la publier sous pseudonyme se sont détournés d'elle et où elle n'a plus aucun moyen de subsistance, si ce n'est la fidélité d'Albin Michel, son éditeur.
Je reviens au thème qui est le même que dans Le silence de la mer. Est-ce que Suite française, énorme succès, 1 300 000 exemplaires vendus dans le monde, n'a pas pris la place du silence de la mer ?
Ben j'ai ce sentiment. Ceci dit, ce serait bien que les deux soient conservés parce que vous l'avez dit, ils sont très comparables. Ce qui est frappant, c'est que le personnage de l'officier allemand, aussi bien dans le silence de la mer que dans Suite française, est un compositeur, est un musicien. Mais Le silence de la mer, d'une certaine façon, est une œuvre de propagande pour la résistance qui invite à ne surtout pas adresser la parole à l'allemand. Alors que dans Suite française, la tentation, l'héroïne y cède. Et elle cède même au flirt que lui inspire cet allemand avant de se rétracter.
Ce qui est fascinant dans Suite française et qui fait le succès de la série télé Un village français, dont moi je suis persuadé qu'elle est inspirée par la réussite du livre de Némirovski, c'est que on voit des gens qui ne savent pas ce qu'il va advenir d'eux, et nous les regardons du point de vue de l'actualité, du présent. Nous savons ce qui s'est passé. C'est le même mécanisme auquel sont invités les téléspectateurs de Un village français.
Oui, les personnages de la deuxième partie de Suite française sont tous plus ou moins hésitants par rapport à ce que l'avenir leur réserve. On est encore en 1942 et dans la troisième partie de son roman, on voit très très bien qu'elle hésite encore sur l'évolution future de ses personnages. Par exemple, l'évolution de l'écrivain Corté, qui est un des personnages de Suite française, dont elle se demande s'il va devenir le chantre de la révolution nationale du maréchal Pétain ou au contraire s'il va écrire une grande ode patriotique à l'URSS à la façon d'Aragon. Alors, ça aurait été très intéressant, effectivement, de voir.
Parce qu'on a le programme de la troisième partie qu'elle n'a pas écrit.
On a des ébauches de plans et on a effectivement des ébauches d'intrigues. Ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est que le film qui sort ces jours-ci, sans connaître du tout ses ébauches, en a choisi une qu'Irène Némirovski avait écrite, avait envisagée en tout cas.
C'est un livre écrit pour la génération d'après, et ça c'est très impressionnant aussi. Elle savait que c'était un livre posthume.
Elle le sait, oui. À partir de 1942, elle l'écrit à son éditeur, puisque pour elle, il est question de publier ce livre, si elle le peut. Elle écrit que ce livre sera son chef-d'œuvre, d'abord, qu'il sera posthume et que ce sera son guerre et paix, ce qu'il est devenu, en quelque sorte.
Irène Némirovski est morte du typhus à Auschwitz, peu après son arrivée, et Michel Epstein, son époux, est mort gazé au même endroit. L'émission a été préparée par Ilinka Negulesco, la réalisation Jacques Sigal, à la technique Hélène Langlois. Je remercie Olivier Philippena. Je rappelle votre livre qui est maintenant en format de poche avec Patrick Lienhardt, La vie des reines Némirovski et toutes les parutions de ses livres chez De Noël et chez Grasset.